maintenant
sur franceinter.fr. France Inter, la différence.
Et à 15h04 sur Inter, Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, ça commence avec le répondeur.
Salut Daniel, c'est Jean-Claude de 93. Ici on est à la Bastille, on est tous ensemble et on va faire du bruit. Alors du bruit pour que notre cher président Macron dise ici. Allez, faites du bruit. Merci Daniel pour ton émission géniale.
Ah, merci Mélenchon, merci, mille fois merci. Enfin, voilà quelqu'un qui parle, qui harangue la foule, il n'a pas dépensé un rond, 120 000 personnes, et quel tribun, vraiment un tribun. Et là, moi j'ai chanté l'international toute seule devant mon poste de télé, pas toute seule, il y avait 120 000 personnes devant moi. Et Mélenchon, merci, merci encore, j'ai 71 ans, au revoir, c'est Jacqueline.
Ce qui m'a fait vraiment plaisir hier, c'est qu'il y a eu énormément de jeunes, et même très jeunes. J'ai discuté avec beaucoup d'entre eux. Ils sont très politisés. Certains connaissent notre émission. Pour les autres, je leur ai donné le site. Et il y a eu les ateliers Jolimôme avec leurs chansons, refusant de donner leur ADN. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Bonjour, c'est Paul, 66 ans. J'étais hier à la Bastille. Ça faisait chaud au cœur, ce petit rappel du temps des cerises. 120 000 personnes. L'international et la marseillaise avec le point levé, et on a continué dans le métro Bastille, à la fin du meeting, je crois, j'espère, camarades, que nous allons continuer le combat.
En tout cas, on continue dans là-bas, si j'y suis aujourd'hui. Hier, en effet, l'équipe de là-bas était entre la Nation et la Bastille, et on vous a rapporté toutes ces images, ces moments sonore que vous allez écouter et partager aujourd'hui. Pensez le changement ou changer le pansement. Que choisir? C'est le titre de notre heure aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale qui concernent les émissions de jeudi et vendredi sur l'Algérie, sur les appelés en Algérie. Aujourd'hui, c'est un grand moment puisqu'on célèbre le 50e anniversaire du cessez-le-feu. Donc, écho de ces deux émissions.
J'ai 35 ans et je n'ai jamais connu la guerre. Mais depuis que je suis petite, on me dit que mon oncle, c'est un ancien d'AFN. Ton oncle, c'est un ancien d'AFN. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et seulement aujourd'hui, j'ai compris ce que ça voulait dire. Donc, merci à tous ceux qui témoignent, ceux qui étaient là-bas et qui ont le courage de dire ce qui s'est passé pour qu'on espère que ça ne se reproduise pas, ou du moins le moins possible. Parce que grâce à eux, moi, ça me redonne un peu confiance en l'humanité. Merci pour tous ces témoignages.
Je voudrais dire que les témoignages qui ont été donnés sur les soldats en Algérie ne sont pas du tout conformes à la réalité. Moi, j'ai été soldat en Algérie pour être instituteur militaire et j'ai gardé de cette époque un excellent souvenir. Et les soldats que j'ai connus n'étaient pas des tortionnaires comme le salaud qui s'est exprimé.
Bonjour Daniel, là je viens d'écouter l'émission sur les anciens d'Algérie. Je voulais leur dire que c'était vraiment courageux de leur part, car eux au moins, ils ont eu la vie assez longue pour pouvoir avoir cet éclair de lucidité pour les jeunes générations, de se rattraper. Au moins ils se sont indignés et ils ont eu le courage de le faire.
Bonjour Daniel, l'émission d'aujourd'hui m'a vraiment remuée parce que mon mari est décédé depuis 3 ans, il a été incorporé en Algérie en 58. Bon, il est arrivé à Cherchel après un voyage en bateau difficile et dans un camp qu'on a dit appelé le camp de la mort lente. Et les paroles de bienvenue ont été « Maintenant les gars, on est là, on va vous apprendre à tuer et à violer ». Je pense que cela n'a pas été jusque-là avec mon mari, mais j'ai entendu par un de ses copains parler de la corvée de bois. Il y a eu un attentat, si je peux appeler ainsi, à Relizane, et on les a emmenés là-bas pour mieux les conditionner. Avec les femmes de ses deux autres copains, nous avons passé des nuits à les écouter en parler, puis cela s'est estompé et s'est même tué complètement. L'un de ses amis est revenu malade psychiquement et agressif. Mon mari aussi était assez agressif. Et la nuit, il poussait parfois des hurlements. Ça a été ce qu'on pourrait appeler une sorte de lavage de cerveau. Il avait des petits livres de propagande. Enfin, c'est une horreur. Voilà. Son rêve était de revoir l'Algérie, qu'il avait trouvé un pays magnifique, et les ruines de Tipaza, mais cela ne s'est pas réalisé. Merci pour toutes les émissions et bon courage. C'est Gabriel.
À propos de la guerre d'Algérie, nulle part on ne parle des personnes qui ont refusé de partir, des appelés qui ont été réfractaires. Or, il y en a eu une quarantaine en France qui ont refusé de partir et qui pour ça ont fait de la prison, des fois jusqu'à 5 ans. Il existe un livre qui s'appelle « Réfractaires à la guerre d'Algérie », publié aux éditions Sileps, qui raconte tout le parcours de ces appelés. Ce serait peut-être bien d'en parler. Alain Chevinet.
Salut Daniel, dis donc, avec tout ce qu'on entend là sur la critique de toute la guerre de l'Algérie, là, de défaitistes, gauchistes, de tout ce qu'on peut dire, si un jour il y a un deuxième métro Charonne à Paris, je dis bien, s'il y a un deuxième métro Charonne à Paris, je pense, toi Daniel Mermet, que tu remporteras une certaine responsabilité. Alors à bon entendeur, salut.
Je m'appelle Marie-Thérèse Jobin, Marie-Thérèse Jobin-Rouanette, j'habite à Charleville-Mézières. Je suis la fille d'un grand résistant ardennais et j'ai un frère qui a participé à un maquis dans le nord des Ardennes, à Revin, dont on ne parle jamais, mais où s'est produit un massacre épouvantable en 1944. Bien, ce maquis était dirigé par le général de la Bollardière, qui s'appelait à ce moment-là le colonel Prisme, un homme admirable. Il y avait eu des prisonniers de fait, et alors que quelques jours après les massacres, les maquisards survivants voulaient se venger, la Bollardière est intervenue en disant que non, qu'on ne toucherait pas ces hommes, qu'on n'allait pas tomber au niveau des brutes qui avaient massacré. Bon, il est allé en Algérie et c'est, vous savez ce qu'il a fait, M. Mermet le sait. Comment se fait-il qu'on ne rappelle pas la mémoire de cet homme ? Admirable. Bravo, M. Mermet.
Ah, il y a une belle foule qui défile avec des poussettes, des enfants, plein de drapeaux, l'affiche, la pancarte, vite une 6ème République du Front de Gauche.
Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance !
On retrouve quelque chose de très profond, je crois, de la gauche française, hein, et du mouvement populaire français, qui est le sentiment que les gens sentent qu'ils ont un point d'appui et qu'ils peuvent relever la tête.
Millionnaire de tous les pays, gare à vous, le vent tourne, Val-de-Marne prend la Bastille. Pensez le changement plutôt que changer le pansement. Francis Blanche.
Cette marche, nous l'avons commencé depuis la nation, de la Bastille des révolutions jusqu'à la place de la 6ème République.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis, avec Gaylor Van Wimmer chez Antoine Chao. Pensez le changement ou changer le pansement.
Là, on se trouve à l'angle de la rue de Tourtille et de la rue Ramponneau, dans le 20e arrondissement de Paris, sous le ciel gris et les pavés mouillés. On a à peu près 200 personnes qui sont rassemblées, avec des vraies gueules parisiennes pour certains, bérets titi parisiens, et les drapeaux rouges qui flottent dans l'air. Il y a 5 grands drapeaux rouges qui sont des drapeaux du peuple ouvrier de Paris, de la commune de Paris. Et à cet endroit-là, à ce croisement, il y a 141 ans, se tenait la dernière barricade des insurgés de la commune à résister, la dernière barricade parisienne communarde à se rendre.
La dernière barricade des journées de mai et rue Ramponneau, pendant un quart d'heure, un seul fédéré la défend. Trois fois, il casse la hampe du drapeau versaillais. Pour prix de son courage, le dernier soldat de la commune réussit à s'échapper.
On va avancer, on va essayer de se frayer un chemin et d'aller retrouver Claudine, qui est la coprésidente de l'association des Amis de la Commune.
Les communards, ils étaient d'origine très diverse, et notamment ouvrière. Quand on nous parle de la commune, on nous parle de la Semaine Sanglante, mais pas du reste. Il règne sur cette période de l'histoire une chape de plomb. On veut bien parler de la Semaine Sanglante à la rigueur, et on dit aux gens, vous voyez si vous bougez ce qui vous arrivera, mais on ne veut pas parler de tout ce que les communards ont proposé pour améliorer la vie des gens, c'est-à-dire leur œuvre sociale. Ça, on le cache.
Et pourquoi ? Comment vous l'expliquez ?
Comment je l'explique ? Mais c'est parce que la prise du pouvoir par le peuple, pour le peuple et par le peuple, ça fait peur aux dirigeants. Et actuellement, c'est très fort cette notion.
Comment on pourrait s'en inspirer aujourd'hui de la commune de Paris, même si ça date un petit peu, 140 ans, mais comment on pourrait s'en inspirer ?
Il faut s'en inspirer en écoutant ce que les gens ont à dire. Il faut répondre aux aspirations des gens et confier le pouvoir à la population elle-même. C'est ça la démocratie.
Non, là, le pouvoir, on peut aller voter, on va se prononcer dans quelques mois pour élire notre président de la République.
Les élections sont une chose, mais la parole des candidats, il faut la faire respecter. On ne peut la faire respecter que par une action de masse. Il faut être toujours présent dans la rue, dans les associations, pour faire pression et exiger que les engagements soient tenus.
Vive la commune !
Le sol est jonché de leurs cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon. C'était le télégramme adressé par Adolphe Thiers au préfet à propos des Parisiens insurgés le 29 mai 1800. Le sol est jonché de leurs cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon. Leurs cadavres, eh bien, c'était les cadavres des communards. Et ce dimanche, hier, 18 mars 1871, la mémoire des communards était bien là pour cet anniversaire de la déclaration de la Commune de Paris. Et en même temps, aujourd'hui, 2012, eh bien, avec une volonté de changer la République, d'en finir avec la Ve République et d'aller vers une Sixième République à construire, à constituer. C'est ce à quoi invitait hier le Front de Gauche et le Parti communiste avec cette grande manifestation sur la place de la Bastille, partie de la nation, arrivant à la Bastille avec cet horizon, avec ce grand chantier politique qui est, qui sera inévitablement un changement de constitution, un changement de république. Jean-Luc Mélenchon n'a pas le monopole de cette initiative, de cette volonté, de ce projet, et c'est sans doute une des raisons pourquoi il y avait tant de monde hier entre la nation et la place de la Bastille. De mémoire de manifestants, on a rarement ou presque jamais vu une telle foule sur cette place de la Bastille. Il était impossible de bouger par moments, on étouffait littéralement, même on s'inquiétait d'une foule aussi serrée. Alors on avance des chiffres de 100 000, de 120 000. C'est indéniablement un succès. Ceux qui ont commencé par être extrêmement arrogants, méprisants envers Mélenchon sont en train de le trouver fréquentable, talentueux, et vont essayer probablement de faire ce qu'ils ont fait auparavant avec José Bové ou avec Olivier Besancenot, c'est-à-dire un personnage médiatique, un guignol médiatique qui fait de l'audience. Ce qu'on a essayé de faire hier avec Antoine et Gaylor, c'est regarder de l'autre côté, c'est-à-dire regarder ce peuple, ces gens qui étaient dans les rues, dans cette manifestation, dans ce grand meeting, et de leur tendre nos micros et d'essayer de vous rapporter quelques photos sonores de ce moment dont les uns et les autres disaient « c'est un moment historique ». Et les parents disaient à leurs enfants « tu pourras dire que tu y étais, c'est jusqu'à 16h, c'est là-bas, si j'y suis, il faut choisir changer le pansement ou penser le changement ».
HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. STF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se mettent à tomber.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
Jean Bricmont, intellectuel belge.
Oui, c'est une contradiction dans les termes.
Réflexion, analyse, conclusion.
Ben, disons que je suis content de voir ce rassemblement. Je suis content de voir la campagne de Mélenchon. Je pense que c'est peut-être le début du commencement, mais le chemin sera long. Mais, ce sera la longue marche pour revenir au thème, progressivement on revient au thème de la gauche classique. On repart du peuple, on repart de la souveraineté, on sort un peu de tout ce qu'on appellerait la gauche morale, la gauche bobo, la gauche qui a dominé les années 90, qui a laissé filer les questions socio-économiques, qui s'est concentrée uniquement sur le sociétal. Et maintenant on revient, on commence à discuter des vrais problèmes, il y en a encore beaucoup. Je pense que l'important, c'est l'international. Je voudrais qu'on reparle de l'international. Je pense que le problème le plus important aujourd'hui, c'est le risque d'une guerre avec l'Iran, et je suis presque sûr qu'on n'en mentionnera jamais.
C'est vrai que la politique étrangère n'est pas du tout présente dans cette campagne.
C'est ça. Oui, mais la politique étrangère détermine, si vous voulez, à travers les contraintes qu'elle impose. Par exemple, déjà, maintenant, on est en train de réfléchir à l'Europe et à l'euro. Pendant longtemps, on a dit l'Europe, c'est bien parce que, voilà, c'est l'international, etc. Maintenant, on se rend compte qu'on s'est fait complètement entuber là-dessus. La gauche s'est fait entuber là-dessus. On a fait les bons sentiments, si vous êtes contre l'Europe, vous êtes raciste, vous refusez l'autre, etc. Et avec la politique de bons sentiments, maintenant on a une Europe ultra-libérale à laquelle on ne sait rien faire, on ne peut pas la changer. Donc maintenant on commence à réfléchir à en sortir. Il faudrait au moins avoir un débat honnête là-dessus, première chose. Et deuxième chose, c'est effectivement l'international, où là de nouveau, on a ignoré toutes sortes de problèmes, particulièrement le militarisme, le Moyen-Orient, la guerre, la Libye, la Syrie, etc., sur laquelle la position est très faible. Ce que je pense, c'est qu'il faut être cohérent. Si on veut une politique étrangère alternative, quelle qu'elle soit, comment va-t-on faire si on ne sort pas de l'Europe? Il est évident, on peut parler de diminuer les salaires de 1 à 20, etc., ou de réguler les salaires, etc. Il faut se rendre compte que l'Europe, les traités européens interdisent tout ça. Donc il faut savoir ce qu'on fait, on en sort ou on l'échange? On l'échange avec qui? Faut pas oublier que 10% de la population, c'est pas une majorité. Donc la lutte va continuer au-delà de l'élection présidentielle, il faut bien qu'elle continue. Pour qu'elle continue, il faudrait peut-être, à mon avis, tout remettre à plat et tout repenser. Y compris l'Europe, y compris l'international, la négligence de l'international, rediscuter de la paix et de la guerre, des États-Unis, etc. Et ça, ce sont des impensés de la gauche actuelle auxquels il faudra repenser, c'est tout. Mais moi, je propose seulement de continuer le combat, continuer le débat.
Reprenons la Bastille, la marche pour la 6ème République. Dimanche 18 mars. Pour toutes, travailleuses avec ou sans papier, un contrat et les mêmes droits.
Oui.
Alors ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bah oui, nous sommes association de femmes, Femmes Égalité, voilà, qui se bat pour les droits, pour le progrès social et l'émancipation de la femme. Qui se bat pour, enfin, qui lutte et qui se bat pour les droits des femmes du milieu populaire. Voilà. Donc, on s'approche du front de gauche parce qu'il est, on voit qu'il est plus proche de nous, de nos luttes pour la régularisation des travailleuses sans papier et pour l'égalité des salaires hommes et femmes maintenant, la régularisation des métiers féminisés. Voilà.
Et la 6ème République ?
Oui, oui, bien sûr, puisqu'on soutient le front de gauche, donc on soutient tout le programme, c'est normal.
Merci.
De rien.
Résistance ! Résistance ! Résistance !
Et là, c'est le cortège de Besançon.
Aucune hésitation ! Au premier tour, c'est Mélenchon ! Au second tour, c'est Mélenchon ! Aucune hésitation. Au premier tour, c'est Mélenchon. Au second tour, c'est Mélenchon.
Ah, vous êtes optimiste à Besançon alors?
Très. Excessivement.
C'est Mélenchon. C'est Mélenchon.
Prise, reprise et surprise de la Bastille hier, 18 mars 2012, la Bastille non pas noire de monde, mais rouge de monde, on y était, vous l'entendez, avec cette foule très paisible, souriante, goguenarde, marrante, aucune tension, parce qu'il n'y avait aucun flic, on n'a vu aucun flic, aucun CRS, rien, donc par voie de conséquence, c'était tout à fait paisible. Rencontre au hasard avec Patrick Braouzec, député de la Seine-Saint-Denis, sur la 5ème République, faut-il y croire ?
J'y crois, mais plus que je n'y crois, il faut qu'elle est nécessaire. L'écart qu'il y a aujourd'hui entre les institutions et le peuple, on le voit bien à chaque élection, est grandissante et ce n'est pas possible. Il y a un problème de démocratie et si on ne crée pas les conditions pour que la 6ème République émerge, pour justement rapprocher le peuple de l'institution, je pense que cette 5ème République mourra dans la violence.
Ça pourrait, on pourrait y accéder comment ? Quel serait le procédé ? Une constituante ?
Une constituante, le principe de la constituante qui détermine les grands axes de cette constitution, ses principes et ses valeurs. Beaucoup de choses ont changé depuis 58. Il y a des évolutions terribles, à la fois très profondes et très progressistes, et puis d'autres qui ont été un peu plus dures. Et donc on a intérêt aujourd'hui à faire tenir compte de ces évolutions technologiques, sociétales. On ne parle plus comme on parlait en 58. On n'a plus les mêmes outils de communication.
Quels sont les points auxquels tu tiens le plus, toi, que tu voudrais vraiment défendre le plus dans cette perspective ?
Alors moi, il y a trois choses qui me tiennent à cœur. La première, c'est l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, à la fois au niveau des responsabilités, au niveau du salaire. Rentre dans la Constitution le fait qu'il y a l'égalité salariale entre hommes et femmes. Deuxièmement, un contrôle des salariés au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que cette démocratie participative dont on parle beaucoup dans la cité, dans les villes, il faut qu'elle s'exerce aussi dans les entreprises. Et puis, la troisième grande chose, c'est rétablir un système public de financement qu'on a besoin aujourd'hui de rétablir, y compris dans la Constitution, le fait qu'on ait des banques et des services nationalisés. On en a besoin.
Nationalisation des banques.
Pas de toutes les banques. Après, chacun fera ce qu'il voudra. Mais moi, je saurais que quand je place mon argent dans une banque, Elle ne sera pas utilisée à des fins spéculatives, mais pour construire du logement, pour répondre à des besoins sociaux. Donc il y aura des banques dont on saura quelle est l'utilité publique, puis il y aura des banques pour ceux qui veulent jouer au Monopoly.
Et en finir avec la monarchie présidentielle.
Ah ben ça, c'est le Boaba. C'est
oui, le Boaba, mais tu ne l'as pas dit.
Non, mais moi, ça va de soi, parce que le contrôle des citoyens implique qu'on en finisse avec la monarchie présidentielle. Ça veut dire que le président rejoue son rôle de président de tous les Français et ne soit pas un homme de parti. Et ça signifie qu'on est un gouvernement qui gouverne et non pas que le président de la République soit à la fois président de la République et Premier ministre comme c'est le cas aujourd'hui.
Est-ce que tu penses que c'est ce système de monarchie présidentielle qui fait que dans une région que tu connais plutôt pas mal, le 9-3 et alentour, on a quand même un désintérêt pour cette élection présidentielle?
Bien sûr, mais c'est ce que je dis. Hein. Ça fait 3 élections que les quartiers populaires ne votent pas à plus de 20%.
Est-ce que c'est ça la raison?
C'est une des raisons. L'autre raison, c'est que je pense que les jeunes, notamment, ne considèrent qu'on ne les considère pas, qu'on ne les calcule pas, comme ils disent.
Ouais, ouais.
Ça veut dire qu'à un moment, on ne les calcule pas, qu'on n'a pas calculé leurs parents. Je pense qu'une des premières mesures à prendre par un gouvernement de gauche digne de ce nom, ça serait d'établir le droit de vote et d'éligibilité des étrangers.
Parce que ça fait partie des projets du Front de Gauche.
Ça fait partie du projet du Front de Gauche et ça serait un sacré signe qu'on donnerait aux enfants de ces parents qui ont travaillé toute leur vie sur le territoire et qui aujourd'hui ne sont pas des citoyens à part entière.
Et là, tu vas à une commémoration du 19 mars 1962, il y a 50 ans, le cessez-le-feu.
Exactement.
T'étais pas né.
J'étais pas. Ah si, 62, j'étais né, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans. Je me souviens de toute l'ambiance qu'il y avait autour.
Ah ouais?
Ouais. Moi, j'habitais à la limite d'Agnières et Gennevilliers. Mes parents habitaient du côté de la cité du Lutte, par là. Donc, il y avait une drôle d'ambiance. Une drôle d'ambiance. Et ça m'a marqué quand j'étais môme. Parce que il y avait cette histoire de couvre-feu et on le ressentait même en étant gamin. Donc effectivement, c'est important de commémorer ça avec la population tunisienne, parce que cette population, elle est venue, la population algérienne est venue très nombreuse à Saint-Denis dans cette période et elle est encore marquée par ça.
Ah oui, 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 il y a des séquelles et des ressentiments durables. Hein.
Tout n'est
pas fini.
Tout à fait, ce n'est pas fini.
يا اللي عايشين في البحر يا اللي عايشين في الهم والدين يا ناس بدل والحكومة للعمال من ماضي الزنا يكفينا الإقطاعية وراس المال نوضو يا أهل المرسى والبينا والحكومة للعمال هذه دبزة سفرية لحقتها دبزة فلا والإشتراكية ما تجي غير بالكفاح
Les salariés de Carrefour avec le Front de Gauche.
Bonjour.
Alors,
le seul candidat qui parle de nous, le seul candidat qui peut nous défendre. Et on croit donc dans ce pays, il faut un vrai changement, mais ce vrai changement vient que de Front de Gauche. Les autres candidats, ils passent à côté de plaques, ils nous apportent rien, ils nous disent rien. Le seul programme qui nous parle, c'est le programme Front de Gauche.
Chez Carrefour.
Chez Carrefour, oui, exactement.
Alors quoi, les caissières,
les employés, nous sommes tous des salariés, employés, caissières, voilà, donc tout le monde.
Vous y travaillez?
J'y travaille aussi.
Alors
je vote à gauche et encore plus à gauche.
De plus en plus à gauche, c'est ça?
De plus en plus à gauche.
Nous que 40% des ouvriers, d'employés votent pour le Front National, c'est inacceptable. Voilà pourquoi on est là. On veut montrer que les ouvriers votent pour le gauche. Sont de gauche. Voilà.
C'est l'humain d'abord.
Là, c'est les Landais. Sarkozy découvre les fêtes de Bayonne.
Vous êtes qui ?
Et vous ?
Je suis un vieux coco, moi. Mon père était avec Valdécrochet. Et je me suis battu toute ma vie, j'ai vécu dans la misère. Mais j'ai fini quand même par mon travail conducteur au TGV à la gare de Lyon. Mais je ne changerai jamais d'idée. Jamais je changerai.
Et t'es là aujourd'hui ?
Je suis là aujourd'hui parce que je viens de province, je suis maintenant en retraite dans le Cher.
Tu soutiens Mélenchon ?
Bien sûr.
Soutien critique ?
Non, je soutiens Mélenchon, franchement.
À fond, ouais.
Franchement, mais je n'oublierai pas mes racines. Point, c'est tout. Il y a un candidat des fronts de gauche, c'est très bien.
Est-ce que tu as vu le film de Tria, là, sur l'Atlantide ?
Marcel Triade.
Marcel Trias, qui s'appelle L'Atlantide.
Non, j'ai pas eu
l'histoire du
de
parti.
Voir.
Magnifique.
Mais je sais.
Bon, ben c'est bien que vous soyez là, les gars.
Si t'as besoin des vieux comme moi au TGV, parce que tu sais, des fois c'était la vitrine, la super vitrine de la SNCF. Tu sais, on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, par rapport à ce qui se passe, le fret, l'avenir de l'entreprise, qui sont en train de tout casser, que la casse est programmée et tout. Hier soir, j'ai bu l'apéritif avec Didier Lorest, qui est un type extraordinaire. Didier Lorest. L'ancien secrétaire de la Fédération CGT et Cheminots. Je sais que c'est un camarade, ça, extraordinaire.
Alors, comment tu t'appelles ?
Moi, je m'appelle Raymond Dard.
On est militants de France, on n'est pas en vacances. On écrit l'histoire de France, on n'est pas en vacances. On écrit l'histoire de France.
Voilà, on n'est pas en vacances. On écrit l'histoire de France, c'est peut-être bien les enseignants là qui sont en train de scander ça. On écrit l'histoire de France. C'est peut-être bien ça qui s'est passé hier. Alors, quelle page, quelle sera l'importance d'une journée comme celle-là ? L'histoire est largement imprévisible. Mais là, on était hier avec ceux qui pensent qu'on peut agir sur la partie non fatale du devenir. Il y a sans doute des éléments que nous ne pourrons jamais contrôler, qui surgissent comme ça, sans qu'on puisse les prévoir et sans qu'on puisse les maîtriser. Mais il y a une marge de manœuvre. Et hier, cette marge de manœuvre était là, joyeuse, vivante, large, et aussi bien, on pouvait rencontrer un vieux militant communiste, des gens qui étaient venus aussi par curiosité, qui sont pas forcément à la gauche de gauche, mais qui viennent voir, qui viennent un peu partager ce moment heureux, ou bien des intellos tout à fait rompus à tout toutes les dialectiques et à toutes les rhétoriques, comme notre ami Statis Kouvelakis.
Ouais, c'est bien. Alors, comment tu analyses ça, Kouvelakis, le grec?
J'analyse ça comme une... comme
ton regard, son regard, l'analyse, ouais. Peut-être un peu...
On retrouve quelque chose de très profond, je crois, de la gauche française et du mouvement populaire français, qui est le sentiment que quand il y a un rassemblement, quand il y a un processus unitaire, il y a une dynamique qui a un effet multiplicateur. Et les gens sentent qu'ils ont un point d'appui et qu'ils peuvent relever la tête. Et ça, c'est quelque chose, c'est la dynamique propre du rassemblement et une pugnacité, une confiance en soi qu'on retrouve. Ouais, je crois que c'est ça.
Dis-moi, Statis Kouvelakis, tu es un observateur, tu es grec, tu es observateur de ce qui se passe en Grèce. On a l'impression, dans les médias aujourd'hui, que la question est réglée en Grèce. Hein, on a donné de l'argent aux Grecs et puis ça s'arrange. Quelle est ton analyse là pour le coup ?
Non, ce qui s'est passé est une véritable catastrophe. On a annulé une toute petite partie de la dette grecque dans des conditions qui sont scandaleusement favorables aux créanciers. La Grèce a réemprunté pour des montants bien supérieurs à à la remise qu'elle a eue de la dette, à des conditions d'une austérité et d'une mise sous tutelle qui sont encore pires en fait que ceux des deux premiers mémorandums déjà imposés. Donc la situation va vers un chaos encore plus grand. Les élections sont prévues pour la fin avril. Elles vont se dérouler dans un climat de tension sociale et politique extrême. N'aboutir à aucune solution viable en tant que telle. Et bien entendu, le conflit va se poursuivre et va certainement s'intensifier. De nouvelles explosions sont certaines.
Nous nous sommes rassemblés parce que nous allons faire de cette élection une insurrection civique qui va, en se donnant d'abord rendez-vous dans les urnes, commencer ce jour-là la révolution citoyenne qu'il est nécessaire d'accomplir pour changer en profondeur la vie du peuple qui pâtit et ouvrir la brèche qu'attend toute l'Europe de son volcan français. Nous adressons notre salut fraternel et notre solidarité au peuple grec qui pâtit, aux Espagnols, aux Portugais, aux Italiens, à tous ceux qui ont pour l'instant sur leur tête le poids de l'oppression venue de l'abjecte Troïka.
Ah ouais, il y a un grand éléphant qui s'approche avec Boycott Lipton. C'est les camarades de Fralib.
L'éléphant, les Français, en Provence, il doit rester. L'éléphant, les Français, en Provence, il doit rester. L'éléphant, les Français, en Provence, il doit rester.
Olivier Le Berquier, délégué syndical CGT de Fralib à Gémenos.
Ah, ça fait comme un année de lutte déjà là.
538 jours de lutte, donc ça commence à faire. On va bientôt faire les 18 mois. Je crois que la semaine prochaine, on sera dans le, on fera le 18e mois. Fralib, c'est Groupe Unilever qui décide le 28 septembre 2010 de fermer la seule usine en France qui produit des thés parfumés et des infusions parfumées sous la marque Éléphant. Marque est vendue exclusivement en France et donc aux consommateurs français et uniquement à eux. Et donc, ils souhaitent pour toujours plus de profits. Continuer à vendre les productions en France, que la marque Éléphant restera vendue uniquement en France, mais plus la produire en France, la faire produire en Pologne ou en Belgique. Donc voilà, c'est dur, c'est long, mais on est déterminé. On voit malheureusement en 530 jours, plus de 530 jours, aucun mouvement du gouvernement actuel envers nous. À chaque fois qu'on les a sollicités, grosso modo, on nous dit c'est un groupe privé, on peut rien faire. Sauf qu'on a soulevé un scandale d'État la semaine dernière, c'est-à-dire que pour la première fois où l'État a intervenu dans notre dossier, à travers le ministère du Travail qui a bloqué une lettre que l'administration devait envoyer, qui soulevait la totalité des irrégularités manifestes qu'il y a dans la procédure, et le ministre Xavier Bertrand a donné ordre de ne pas la faire partir.
Alors pourquoi vous êtes venu aujourd'hui sur cette marche? C'est la 6ème République, c'est Mélenchon?
Ça fait 538 jours qu'on lutte, donc nous, la campagne électorale, ça fait un moment qu'on la mène, hein. Donc on est en campagne déjà depuis longtemps. Au rythme des échéances qui avançaient, un certain nombre de candidats de gauche nous ont sollicité pour venir s'intéresser à notre dossier et voir comment ils pouvaient éventuellement nous aider. Donc je crois que d'ailleurs que le premier jour de candidat pour le Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon l'a passé à Gémenos dans notre usine. Aujourd'hui, on nous propose de venir. Bien sûr, ça nous paraît complètement légitime d'être ici. La marche pour une 6ème République, c'est pour redonner la parole au peuple. Le peuple, c'est nous. C'est pas les nantis qui gagnent beaucoup d'argent, qui bien souvent ne travaillent pas beaucoup, ils jouent leur argent en bourse et ils récoltent les fruits de ceux qui travaillent. Donc, il faut redonner la parole au peuple. Voilà.
Écoutez, ce que je vous demande, c'est ensemble, ouvriers, tout ce qu'on est, les salariés et nous, les soignants, eh bien, crions fort pour protéger l'hôpital public.
Bonjour.
C'est l'hôpital
Saint-Antoine.
Saint-Antoine, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas l'air contente.
Ah ben, je ne suis pas contente parce que j'ai interpellé tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon et bien entendu tous ceux qui organisent cette manifestation. Parce que nous sommes également du personnel des établissements. On s'est battu pendant 3 ans pour le maintien d'une maternité qui faisait 2900 accouchements. Elle a fermé le 9 février par décision politique d'en haut, hein, de très haut. Et aujourd'hui, la même décision, c'est la fermeture du service de pneumologie qui aura lieu, bien entendu, entre septembre et novembre 2012. On est en grève depuis le 13 décembre pour le maintien de ce service.
Vous êtes qui ?
Je suis Régine Linard et je suis la secrétaire de la CGT, la responsable de la CGT de cet établissement. Je suis tout d'abord infirmière dans cet établissement.
Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance !
Ah oui alors ! Notre nous, le personnel hospitalier qui arrivera à défendre l'hôpital public, c'est bien entendu une valeur du peuple, l'hôpital public.
C'est France Inter.
Ouais, bravo, c'est la dôme.
C'est notre radio.
Ah, c'est pour Mermet.
Oui.
Ouais.
On fait partie. Moi, je vais au café.
Et quand est-ce qu'elle va passer l'émission demain?
Demain, oui.
Bon, ah bon, je l'écouterai alors.
Il y a du monde, hein, quand même.
Ça va même au-delà de mes espérances.
Ouais. Mais attends. Oui, alors, on est contente, hein.
Mais et c'est puis notre on va radio, voir alors on est content de vous, hein.
Non, non, mais...
Mais c'est votre candidat, Mélenchon, ou vous êtes là pour la 6e République?
C'est notre candidat.
C'est notre candidat. Ah oui, 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 absolument. Absolument, les deux. Et puis on voulait voir s'il y avait beaucoup de monde qui allait se déplacer. Parce que, bon, comment je dirais, personnellement, moi, les sondages, j'y crois pas trop. C'est pas parce qu'on interroge 500 personnes prises ici et là que ça veut dire quelque chose.
Non, mais il paraît. Sarkozy et la bande du Fouquet. Le Gajon,
Sarkozy et la bande du Fouquet. Le Gajon, Sarkozy et la bande du
Fouquet. Alors, moi, je suis convaincue. Je vais voter pour lui, de toute façon.
De toute façon, moi, j'ai été au Parti communiste quand j'avais 20 ans. C'est normal. Mais bon, à l'époque, j'ai arrêté parce qu'ils avaient condamné la peinture abstraite. Alors bon, c'était le temps. C'était. J'avais 20 ans en 1960. Mais bon. Mais de toute façon, moi, j'ai toujours voté à gauche et je suis profondément de gauche, quels que soient les partis qui nous représentent plus ou moins bien. Et je pense que là, au plus, on est dans un changement de société total. On ne sait pas du tout ce qui va sortir. Et voilà, c'est intéressant, c'est une période intéressante. Je pense qu'à mon âge, je ne verrai pas l'issue de tout ça, dans 20, dans 30 ans, dans 20 ans, mais c'est intéressant. Voilà.
Et vous ?
J'ai toujours voté à gauche.
C'est votre radio
aussi ? Moi aussi, France Inter, moi toujours.
Mais alors, vous pensez que France Inter, c'est une radio de gauche pour vous ou pas ?
Pour moi, plutôt quand même. Sinon, je ne l'aimerais pas autant, je crois.
Elle correspond plus.
Bon, d'abord, moi, au début que j'ai écouté France Inter, c'est parce qu'il n'y avait pas de pub. Parce que je ne supporte pas ça. On est tellement plus, depuis des années, on n'est plus des citoyens depuis des années et des années. Nous ne sommes que des consommateurs du début de la vie jusqu'à la fin. Il n'y a plus aucune grande idée philosophique et de justice sociale et tout qui mène vraiment les foules. Et il est temps que ça change. Voilà.
Voilà, 18 mars 2012, un grand coup de rouge. Vous avez entendu l'éléphant des Français en Provence, il doit rester. On dirait le début d'un conte pour les enfants sur cet éléphant qu'il doit rester en Provence. Et puis cette dame qui explique qu'elle a rompu avec le Parti communiste parce que le Parti communiste avait rejeté la peinture abstraite. C'est illisible aujourd'hui, ce genre de querelle. Mais quelque chose qui est très très lisible, c'est ce projet de 6e République, s'il y a bel et bien rejet de la figure de Nicolas Sarkozy, l'hyper-président, c'est bel et bien tous ces pouvoirs qui sont entre les mains d'un homme comme celui-là, mais d'un homme, d'un seul homme, c'est ce système présidentiel qui a été créé, vous le savez bien, en 1958, la Ve République. Il y a eu des réformes constitutionnelles depuis qui ont donné une certaine plasticité à cette Ve République. Mais aujourd'hui, il faut transformer. On a devant nous un projet possible, un chantier politique possible qui induirait, vous voyez, j'hésite entre le futur et le conditionnel, une véritable repolitisation. Et ce que disait Patrick Braouzec il y a quelques instants, j'y crois tout à fait, c'est-à-dire que dans les quartiers populaires, si on n'a plus que 20% de gens qui votent, ce que font les 80 autres, bah, c'est qu'ils se trouvent pas du tout représentés par ceux qui se présentent à leur suffrage. Sans doute, il faut parier, il faut être optimiste, qu'il y ait une envie de participer, mais qui ne trouve pas son débouché. Et il y a donc un déficit de démocratie, il y a peut-être même une crainte de la démocratie, et peut-être même, comme disent certains, une certaine haine de la démocratie de la part de l'oligarchie qui nous gouverne. C'est donc un chantier possible, encore une fois, dont le Front de Gauche n'a pas le monopole, mais qui peut nous ouvrir une perspective à tous et à toutes. Alors là, on est avec Charlotte Girard, qui est une militante du Front de Gauche, qui est maître de conférence et qui nous explique sommairement, bien évidemment, avec le temps que nous avons, il faudra revenir sur ce sujet qui est passionnant, ce que pourrait être ce changement de République. En tous les cas, ça fait la fortune des bistrots du coin, hein, après la manif, là. C'est un beau dimanche, c'est un beau dimanche. Charlotte, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, je suis donc Charlotte Girard, militante, aujourd'hui en tout cas. Dans la vie, en dehors de la militance, je suis maître de conférence en droit public. Donc j'enseigne le droit constitutionnel et c'était, on va dire, une bonne partie du sujet aujourd'hui, quoi.
Voilà, et c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir nous voir. On est d'abord étonné que la Ve République ait duré aussi longtemps, elle qui avait commencé en 58.
Oui, pour ce qui concerne la Ve République, on dirait que c'est un régime tellement plastique, finalement, qu'il a réussi à s'adapter, surtout à toutes les situations. Et puis, peut-être que surtout, il a survécu parce que ceux qui étaient au pouvoir y avaient intérêt. C'est-à-dire, il y a quand même une espèce de protection du régime par ceux qui tenaient les rênes et puis par les circonstances. C'est-à-dire que c'est aussi quand même un régime intelligent, au sens où c'est un régime qui a su s'adapter parce que précisément il ne permettait pas la critique.
Parmi ce qu'on peut reprocher à la Ve République, il y a ce système présidentiel auquel on est sommé de participer. C'est tout ce qui nous est proposé comme expression politique. Ça consiste à élire une sorte de monarque républicain et qui va avoir tout pouvoir sur nous à tous les points de vue, que ce soit sur l'Assemblée, que ce soit en matière de justice. Et le devoir citoyen actuellement se présente comme un devoir, comme une obligation d'élire un monarque républicain.
Oui, la Ve République, elle a été pensée comme ça, en particulier donc par De Gaulle et Debré, qui étaient les grands artisans. Mais celui qui a porté le plus la tendance présidentialiste de la Constitution, c'était De Gaulle. Donc il y avait comme ça une confusion en fait entre la personne et puis les institutions.
Il y a un très beau slogan qu'on a entendu et vu aujourd'hui sur les autocollants, c'est « Président ».
Oui, Mélenchon président, et surtout pas président. Parce que justement, cette 6e République, ce serait une République qui fonctionnerait à l'inverse des principes de la 5e, donc hors logique de personnalisation, justement.
Expliquez-nous ce que ce serait.
Ce que ce serait une 6e République.
Ça peut être.
Bon, la 6e République sera ce que la Constituante, puis le peuple, décideront. Voilà. La Constituante, c'est une assemblée élue par le peuple qui débat, qui va par référendum dire oui ou non au projet de constitution proposé par la Constituante. Ça, c'est l'enchaînement des choses. Donc, en fait, quand le Front de Gauche par le 6ème République, il a bien une idée sur la question. Donc effectivement, ce serait, je parle au conditionnel, une République démocratique, laïque, féministe, écologiste, sociale, évidemment. Et donc, en fait, une armature institutionnelle qui permettrait de renverser le rapport de force, en réalité. Le rapport de force, notamment entre la représentation nationale et le président, enfin le chef de l'État, qui permettrait que le peuple tienne son rang, tienne sa place dans cette affaire et soit pas justement convoqué uniquement pour des élections. Et on imagine des moyens pour le peuple de faire irruption, de parler plus directement que par l'intermédiaire des représentants, donc avec un système éventuellement de révocation, ce qui existe hein, dans certains États, d'ailleurs des États-Unis ou Wisconsin, il y a un système de révocation. Bon, ce qui existe évidemment au Venezuela avec la possibilité de révoquer le président lui-même. Donc il y a la révocation, il y aurait les droits de pétition, c'est-à-dire que on veut à tout prix que le peuple puisse exprimer le plus directement possible ses aspirations. Les constituantes ne sont pas des expériences exotiques. Ça fait partie de l'histoire révolutionnaire française. La première constitution est issue d'une constituante. La constitution de 1946 est issue d'une constituante. La constitution de 1958 n'est pas issue.
Absolument. Il y avait une situation historique particulière avec la guerre d'Algérie qui justifiait.
En 1945, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait aussi une situation particulière. Il y avait une urgence, peut-être aussi vive que l'urgence de 1958. Et pour autant, on a opté pour la constituante, dont on dit que ça regarde que les juristes, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Donc on peut s'attendre à ce qu'au journal de 20h, bientôt, on ait des cours d'explication de l'intérêt de la constituante.
Bah oui, évidemment.
Il y a des gars qui passent avec des gens qui sortent de la manif. Là, ils ont été boire un coup et puis ils ramènent les panneaux chez eux. Et ça va quand même assez loin, c'est génial. Il y a un gars qui a un truc qui s'en prend à TEPCO. Et c'est quand même assez costaud parce qu'il faut savoir que TEPCO, c'est une entreprise d'électricité japonaise qui est impliquée dans la catastrophe de Fukushima, qui a refusé de dire les choses, qui a menti, et c'est dans un bistrot, on est à la Bastille, à Paris, avec des manifestants comme ça qui rentrent chez eux avec leurs panneaux sous le bras. C'est vraiment des moments où on peut être optimiste. Oui. Alors on peut être optimiste.
Je suis content que vous racontiez ça, parce que c'est ce qu'on espérait. On pouvait pas le
François de la Pierre.
C'est ce qu'on voulait.
Parole du Front de Gauche.
Le héros de la journée, c'est le peuple qui se rassemble ici. C'est pour ça qu'on a fait une marche. Parce que justement, quand vous avez une marche, les gens sont pas des consommateurs d'un événement. Ils en sont les acteurs. Et on voudrait que les médias, pour vous c'est plus facile, vous êtes un peu singulier dans le paysage médiatique, tournent les micros et les caméras depuis la scène, le personnage. Bon, ça va, on a compris, c'est un tribun, il est étonnant, il a de l'humour, c'est bon. Merci, on accepte tous les compliments, y compris ceux qui concernent notre candidat et notre campagne. Mais ce qui est quand même l'événement, ce qui est surprenant, c'est quand vous avez ces salles pleines de gens qui écoutent pendant une heure et demie, deux heures de meeting, ce mélange des générations, des origines. Bon, ça, c'était ça l'événement dans la rue, qu'autant de gens puissent se déplacer. Et c'était pas un meeting électoral simplement. Moi, j'y retrouvais des choses qui sont de l'ordre de la grève, de la manifestation sociale, du moment où les gens dans la boîte disent « ça suffit, je marche plus, j'arrête le travail, je fais un sacrifice financier ». Les gens qui venaient de loin ont fait des sacrifices financiers. On n'a pas les moyens de payer les cars et les trains comme le fait l'UMP. Bon. Et il y avait cette dimension. Il y avait aussi, je pense, un peu une dimension qu'on a chez les indignés en Europe. Bon, mais les indignés en Europe, c'est on veut pas entendre parler de politique, des partis, des syndicats, des organisations. Mais comme la France est un peuple politique, c'est quand même extraordinaire de voir à 4 semaines du premier tour d'une élection, dans le processus électoral lui-même, dans ce qui est aussi une initiative électorale, cette dimension d'insurrection qui s'exprime, hein, qui est présente. Bon. Non seulement la campagne, elle peut pas continuer comme avant, hein, pour nous, mais pour tout le monde. Bon, on comprend que l'aspiration au changement, elle est tellement forte qu'elle secoue l'ensemble de l'ordre social. Bon, elle peut pas se couler dans le cadre d'une alternance dans la Ve République où on toucherait pas finalement au traité européen, on resterait dans un carcan, dans un cadre, on toucherait pas non plus au pouvoir des oligarques. Hein, on le limiterait, non. Il y a une volonté, une aspiration à renverser la table qui est beaucoup plus puissante et profonde que ça. Et ça, c'est pas simplement les slogans du candidat. Nous, on a parlé depuis longtemps d'une révolution par les urnes. C'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux.
Changer le pansement ou penser le changement. Reportage hier à Paris. Antoine Chao, Gaylor, Van Vimerch, merci à toutes et à tous. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez la retrouver également, cette émission, sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de l'émission. Pierrick Monsigny et Rémi Quincet étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Adhéraire ont réalisé cette émission assistée de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. À temps de pied ferme, vos messages au répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Vive la France! Vive la République! Vive la sociale!
Écoutons un sociétaire de la Maïf nous parler de l'assurance décès RassureCap Solutions.
Remarié à 40 ans, un nouveau papa à 46 ans, c'était pas prévu. Alors j'ai voulu que toute la famille soit à l'abri. Du coup, à la naissance de Paul, j'ai augmenté le capital de mon assurance décès.
Avec le contrat RassureCap Solutions, vous pouvez augmenter votre capital de 5000 euros en cas d'événement familial comme une naissance, jusqu'à 4 fois pendant la durée du contrat, et ce, sans nouvelle formalité médicale. Maïf, assureur militant. Le contrat RassureCap Solutions est conçu et géré par Parnasse Maïf, filiale assurance vie de la Maïf.
France Inter et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent du 23 au 28 mars, au Théâtre de l'Odéon, La Casa de la Fuerza, un spectacle d'Angelica Lidl. Sur les airs chauds des mariachi venus du Mexique, La Casa de la Fuerza est une épopée dans l'intimité des femmes, un acte de résistance civile, ici et là-bas dans le monde. Retrouvez La Casa de la Fuerza dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. France Inter présente Les Adieux à la Reine, le nouveau film de Benoît Jacquot d'après le roman de Chantal Thomas. En 1789, à Versailles, à l'aube de la Révolution, la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la cour. Le château se vide des nobles et des servants.
Je me nomme Sidonie Laborde. J'étais la lectrice de la reine. J'obéis à la reine. Bientôt, je serai loin de Versailles. Bientôt, je ne serai plus personne.
Avec Léa Seydoux, Diane Kruger et Virginie Ledoyen. Au cinéma, le 21 mars. Retrouvez Benoît Jacquot et Virginie Ledoyen dans Downtown ce soir à 18h20.
Tu sais, papa, j'ai appelé le 3025 pour préparer ma retraite avec Préfonds Retraite, le spécialiste de la retraite des agents de la fonction publique.
Déjà ?
Il n'y a pas d'âge pour bien préparer sa retraite. D'ailleurs, tu devrais t'y mettre.
Ah, tu as raison. En plus, avec Préfonds Retraite au 3025, l'appel est gratuit depuis un poste fixe.
Seize heures trente secondes sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis, les infos, Hélène Philly. Salut.
Une cérémonie d'hommage dans une heure à la Grande Synagogue de Toulouse, une marche à Paris à l'appel de l'Union des étudiants juifs de France ce soir. L'émotion après l'attaque de ce matin devant un collège juif de Toulouse, un homme a ouvert le feu sur les élèves qui rentraient en classe. Il a tué un adulte, trois enfants et s'est enfui sur un deux roues, mode opératoire qui rappelle celui des meurtres de militaires la semaine dernière à Montauban et Toulouse. Les enquêteurs font état de similitudes troublantes. Une source proche de l'enquête assure même à l'instant que l'arme est la même. Écoutez tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant.
J'ai la réaction de tous les Français, c'est-à-dire que comme tous nos compatriotes, je suis submergé par l'émotion. C'est un acte très grave qui s'est passé ce matin, que nous ne pouvons que condamner. C'est un acte de haine, et c'est un acte qui a été porté contre des juifs, contre des enfants juifs, et il faut bien appeler ça un acte antisémite, quel que soit l'auteur de cet assassinat. Alors bien sûr, toutes les précautions sont prises. J'ai dès ce matin donné des instructions à tous les préfets de France pour que chaque établissement d'enseignement juif soit gardé de façon permanente par la police ou la gendarmerie, ainsi que les synagogues, les centres communautaires.
Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, et puis les condamnations sont venues de toutes parts, de la classe politique française, des États-Unis, d'Israël. Une tragédie nationale pour Nicolas Sarkozy, qui appelle à une réponse commune et ferme de toute la République, a renchéri François Hollande, arrivé sur place tout à l'heure. Une émission spéciale tout à l'heure sur France Inter, entre le journal de 19h et 20h. Les affrontements ont duré plusieurs heures avant l'aube en Syrie, des combats entre soldats et déserteurs dans l'un des plus grands quartiers résidentiels de Damas, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des tirs, des explosions ont été entendues, au moins 4 personnes tuées selon la télévision officielle syrienne. 6 randonneurs emportés par une avalanche en Norvège cet après-midi. Peu de détails encore, mais d'après la police, il pourrait s'agir de 6 Français. Sans doute un drame familial dans le nord de la France. Un homme a été retrouvé mort et sa femme blessée à Halluin. Leur fils qui a tenté de se pendre a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Des ajustements, mais pas de pause dans les réorganisations à la Poste. Le PDG Jean-Paul Bailly promet tout de même des efforts après 2 suicides récents révélant un mal-être au sein de l'entreprise selon les syndicats. Il y aura un grand dialogue pour améliorer la cohésion sociale dans le groupe, a assuré le PDG. Le tribunal de Montluçon reporte à vendredi sa décision sur l'avenir de la pépinière Delbar et de ses 122 salariés. 2 offres sont en lice pour la reprise. La première faite par Muriel Devoucou, directrice des pépinières de Troncet, et la deuxième émanant du petit-fils du fondateur, Arnaud Delbar. Il est 16h03.
Bonjour Philippe.
Bonjour Margaret.
Bonjour à tous nos auditeurs.
Bonjour Philippe.
Bonjour Margaret.
Retrouvez-nous du lundi au vendredi.
Dès midi 20.
Nous serons à votre écoute.
Coûte que coûte.
Alors c'est gentil d'être à l'écoute de gens comme moi.
Wenn nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. À votre écoute.
Eh oui.
Coûte que coûte.
Qui n'accepte pas de conseils ne mérite pas d'aide.
Du lundi au vendredi à 12h20 sur France Inter.
À demain.
France Inter. La différence.
Et vous retrouvez sans plus attendre Frédéric Lodéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On dit souvent que les petites bêtes ne mangent pas les grosses, mais quand même, il y en a qui sont bien embêtantes, on va dire casse-pieds. Comme la tarentule. La tarentule est une bestiole très mauvaise, nous dit le texte de la fille impétueuse de Jeronimo Jiménez. Donc elle est très mauvaise, ni bâton ni pierre ne la tue, elle fuit et se cache en tout recoin, et ses piqûres sont très méchantes. Oh, ma mère, je ne sais ce qui m'arrive, hier j'étais sur l'air de battage, et j'ai soudain commencé à être pris de tremblements. Elle m'aura donc piqué cette vilaine tarentule, et je suis gravement malade par son sang venimeux. Que les diables la mangent, cette maudite araignée sur le ventre de laquelle est peinte une guitare. Et oui, c'est un sapateado, donc une danse durant laquelle on doit taper des pieds. Et c'est dans l'espoir de faire partir le venin. Espoir peut-être vain.
La tarantula bicho momolo, non se mata col pierre ni col. Por todos los rincones y son muy malinas o picazón. Ay, madre, no sé qué chingo pude llevarse por la era. Ya pensé que algo entrarme era madera tembladera. Cierra que a mí me pico la tarántula dañina y estoy todo tico enfermao por su sangre tan mandina. De como no me dio más de una araña que tiene la barriga pinta una guitarra bailando se cura tocando dolor. ¡Ay! Malos en la radio que me dedicó. Yo le temo lo raggio di volo y le temo otra cosa más mala. Que lo hizo mi padre más guapo que el gallo, pero ese bichito lo parto un raggio. Ay, madre, yo estoy maligno, entrando en los ore. Que me ha dejado seco y comido de picore. Cierra que a mí me picó la tarántula la niña y por eso me quedó más delgado que una sardina. Te coman los mengues, maldita la araña que tiene la barriga, pintando una guitarra, bailando se cura con fondo.
La tarentule est une bestiole très mauvaise, tirée de la fille impétueuse de Jeronimo Jiménez, un zapateado, danser, mais enfin surtout chanter, là, par Patricia Petitbon, soprano, avec l'Orchestre National d'Espagne, dirigé par José Ponce. Mais la vraie réponse, en principe, à la piqûre de la tarentule, c'est la tarentelle, et oui, une danse rapide de l'Italie du Sud, qui a inspiré beaucoup de compositeurs, même Frédéric Chopin. Et oui, pourtant, il ne l'a pas rencontré, certainement pas. Franz Liszt, lui, a été un virtuose qui a su aussi utiliser ce mouvement perpétuel, en quelque sorte, et même dans ses années de pèlerinage, dans la deuxième. Il faut dire qu'elle est consacrée à l'Italie, justement.
Thank you.